Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 janvier 2017. Vous écoutez Au ras des rues sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Au ras des rues, c'est l'émission qui prend de la hauteur, l'émission sur l'actualité des quartiers sud de Grenoble. Alors autour de cette table, l'équipe habituelle, il y a Marie-France. Bonjour Marie-France.
Bonjour.
Morgane, bonjour Morgane.
Bonjour.
Sabrina.
Salut.
Il y a bien sûr Yannick Hegel à la technique et nous recevons une invitée, Bernadette Richard-Finot, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes élue à la mairie de Grenoble, vous viendrez nous parler dans la deuxième partie de cette émission voilà, du nouveau groupe que vous avez créé au sein, de la au sein du conseil municipal qui s'appelle Ensemble à gauche. Je vous rappelle avant de commencer que le podcast de cette émission sera disponible sur le site du Crieur de la Villeneuve, donc www.lecrieur.net. D'ici une semaine, 10 jours à peu près, que si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire via notre mail auradesrues@lecrieur.net ou via notre page Facebook auradesrues-rks97fm. Alors juste une petite précision, peut-être vous en êtes aperçu, nous sommes passés à une émission une semaine sur deux au lieu d'une émission hebdomadaire puisqu'on n'avait plus forcément les forces pour assurer une émission hebdomadaire. Mais ne doutez pas que Au ras des rues va continuer avec autant d'entrain et autant de contenu et de contenu de qualité dorénavant. Et donc pour preuve, le sommaire de cette émission, le sommaire riche, puisqu'on va parler de l'agenda de la Villeneuve et du village olympique. On va parler de Serge Halimi, le directeur de la publication du Monde diplomatique qui était en conférence à l'Université populaire de la Bourse du Travail. On va avoir un point sur le droit à la ville. On va écouter les enfants du collège Lucie Aubrac et de la radio Villeneuve. Puis bien sûr, il y aura l'interview de Bernadette Richard-Finot. Pour l'instant, on commence avec l'agenda de la Villeneuve, l'agenda du Crieur. Sabrina, c'est à toi.
Merci Benjamin. Alors, ce soir, vendredi 20, rendez-vous au Baratin de 19h à 22h30 pour une scène ouverte jazz, folk et blues. Yves accueillera Salim, Pierre ainsi que le duo Zora et Rayard. Une soirée aux sonorités blues, jazz et folk pour les plus grands bonheurs de tous. Il se pourrait même qu'Yves nous fasse vibrer de tout son groove. Alors, vous connaissez la chanson. Venez tous. Ensuite, Assemblée générale de l'association Ciné Villeneuve qui aura lieu le 23 janvier à 6h30 à la salle polyvalente des Baladins, suivie de la projection du film Projection de Bovine ou La vraie vie des vaches à 20h30. Ensuite, matinée débat à la MDH du Patio qui se déroulera le 25 janvier 2017 de 10h à 12h30. L'équipe de la Maison des habitants des Baladins invite à une matinée débat sur le thème Comment renforcer les liens et les solidarités entre les habitants du quartier à la maison des habitants du patio. Ensuite, l'Assemblée générale du Crieur de la Villeneuve qui aura lieu le 1er février à 19h jusqu'à 22h à la maison des habitants des Baladins. Donc je vous conseille de tous venir.
Ensuite, tu ordonnes même.
Ah oui, c'est ça, je l'ordonne, vous venez tous. Ensuite, UP Journalisme, Nina Faure et Julien Brigaud en conférence le 2 février à 11h45 jusqu'à 2h à la salle 124 de la Bourse du Travail située 32 avenue de l'Europe qui sera payante, mais bon, c'est pas trop cher donc vous pouvez y aller. Après, vous êtes invité à participer à la prochaine assemblée de l'Atelier populaire d'urbanisme, l'APU, qui aura lieu le mercredi 25 janvier à 19h à la salle 150, au 97 Galerie de l'Arlequin. Alors, je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'il y aura. Alors, à 19h, il y aura l'accueil. Ensuite, à 19h15, il y aura un rappel des rencontres publiques de décembre 2016. Ensuite, à 19h30, il y aura présentation de projets réalisés par des étudiants en Master 1 de l'École d'architecture de Grenoble. Ensuite, table de discussion pour faire face aux démolitions du 20 Galerie de l'Arlequin, du 160 Galerie de l'Arlequin et du 1 Place des Saules. Je sais, c'est beaucoup, mais venez pour en parler. proposition d'évolution du plan de guide. Ensuite, présentation des propositions de chaque groupe en plénière et présentation du projet de la semaine de la transition à la Villeneuve qui se déroulera du 6 au 12 mars 2017. Voilà.
Eh bien, merci Sabrina pour cet agenda. Marie-France, tu as des choses à ajouter pour le village olympique?
Petite chose, oui. Le samedi 21 janvier à 11h au local de l'Union de quartier, la galette traditionnelle. Donc, tous les habitants sont invités à venir manger la galette et surtout discuter des problèmes du quartier, boire le café, le thé ou boire un verre. Donc, c'est samedi 21 janvier de à 11h. Ensuite, lundi 23 janvier, c'est au tour de la MJC à nous inviter à 18h à l'auditorium de la MJC, toujours pour la galette des rois. Et je pense que c'est des lieux aussi où on pourra discuter des problèmes de notre quartier. Vendredi 27 janvier, ça ce sera c'est le Théâtre Prémol qui organise une soirée à 19h30 à l'auditorium de la MJC. Un groupe de musiciens passionnés vont revisiter les chansons françaises. C'est une promenade à Paris-Montmartre, c'est le titre de la soirée. Il faut vite réserver parce que le nombre de places est limité. L'auditorium est un peu petit, mais vous pouvez téléphoner au 04 76 33 26 53. Donc, il y a un tarif 10€ et tarif réduit 8€. Deux guitares, trois chants et des percussions vous feront passer une soirée, paraît-il, inoubliable. Voilà, c'était tout pour l'agenda.
Eh bien, merci Marie-France. On va faire notre première pause musicale avec la chanson Search and Destroy de Iggy and the Stooges. Alors, je rappelle que la programmation musicale d'aujourd'hui a été réalisée par notre fidèle auditeur Armand. Et il nous a écrit un petit texte de présentation de cette chanson. Alors que la vague hippie est sur le déclin, cette bande de furieux, donc Iggy and the Stooges, issue des bas-fonds de Détroit, revendique un nihilisme et un esprit négatif totalement nouveau. En 1973, il a encore bon ton de chanter l'amour universel avec une fleur accrochée à l'oreille. Iggy and the Stooges disent non, ils préfèrent opposer un principe de réalité destructeur. Les jeunes s'emmerdent et n'ont pas d'avenir. Sergeant Destroy est-elle la première chanson punk? Sûrement pas. La chanson No Fun du même groupe 4 ans auparavant, le premier album des Who ou encore la première période du Velvet Underground peuvent revendiquer ce titre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous avons affaire à l'un des meilleurs morceaux du genre et une inspiration pour plusieurs générations. On écoute Iggy and the Stooges, Search and Destroy.
Look out, honey, 'cause
Voilà, c'était le titre Search and Destroy d'Iggy and the Stooges. Vous êtes toujours dans l'émission Aura des rues sur Radio Kaleidoscope. Et aujourd'hui, vendredi 20 janvier, on va écouter un reportage de Serge Halimi, enfin un reportage sur Serge Halimi plutôt, qui était l'invité de UP, l'Université populaire de la Bourse du Travail, qui a été montée par le syndicat Sud il y a deux ou trois ans,
oui. Sud Énergie.
On avait d'ailleurs reçu Philippe André, un des fondateurs de cette université populaire dans cette émission au Ras des Rues. C'était fin 2016. Et donc Serge Halimi, le directeur de publication du mensuel Le Monde Diplomatique, était l'invité de l'université populaire pour parler liberté de la presse. Alors il a fait salle comble, c'est la première fois qu'il y avait autant de monde à cette université populaire. Ça a eu un franc succès donc, et je vous propose d'écouter un peu un best-of de ce qu'il a raconté sur la liberté de la presse au cours de cette conférence. On écoute Serge Halimi à l'Université populaire de la Bourse du Travail.
Bien, je suis très content d'être avec vous, d'autant que parler d'information n'a jamais été une question aussi politique ni aussi urgente qu'aujourd'hui. Entre la baisse de la diffusion de la plupart des journaux qui les rend encore plus dépendants de leurs propriétaires, le débat sur Internet, la post-vérité, les fake news qui dominent les conversations, y compris les conversations diplomatiques. Enfin, l'interrogation qui monte sur la possibilité d'un changement démocratique en France ou ailleurs avec le système des médias dont nous disposons, il y a de la matière à discuter aujourd'hui. Déjà en 1934, le dirigeant radical français, Édouard Daladier, mettait en garde contre, je cite, « les 200 familles qui placent au pouvoir leurs délégués et qui interviennent sur l'opinion publique car ils contrôlent la presse ». Un peu plus de 80 ans plus tard, moins d'une vingtaine de dynasties exercent une influence comparable, mais à l'échelle de la planète. Le pouvoir de ces nouvelles féodalités héréditaires, Murdoch, Bolloré, Bertelsmann, Lagardère, Slim, Bouygues, Berlusconi, Cisneros, Arnault, excèdent souvent celui des États. Un pouvoir qui mène une politique libérale, néolibérale, n'a presque rien à redouter d'une presse ou d'un audiovisuel qui favorise spontanément, sans censure autre que volontaire, intégrée, automatique, les points de vue traditionnels et conservateurs. De fait, dans le journalisme moderne, dans la presse de marché, les habitudes sociales et les intérêts de classe jouent une telle puissance que la censure est sans objet. François Giroud, qui fonda l'Express dans les années 50, l'écrivait déjà en son temps, je la cite, « Attendre des représentants du capital qui vous fournissent gracieusement des armes, c'est-à-dire en l'occurrence des journaux, pour s'élever contre une forme de société qui leur convient, et une morale qui est la leur, cela porte un nom, l'imbécilité. » Cette question de la propriété des médias est décisive, car il s'agit après tout de l'honnêteté de l'information, grâce à laquelle nous formons nos opinions, nos avis, nos choix de citoyens. Et pourtant, cette question, qui est décisive, a presque disparu du débat politique. Arrivant au pouvoir à Athènes en janvier 2015, le gouvernement de Alexis Tsipras avait espéré, un peu imprudemment, que la solidarité des peuples européens, en but eux aussi à des politiques d'austérité, lui permettrait de mieux résister à l'intransigeance allemande. Pendant 6 mois, les grands médias ont tenté, et ils ont largement réussi, à mobiliser l'opinion publique européenne contre l'idée d'un effacement de tout ou partie de la dette grecque. En France, ce thème de campagne a été lancé par le Figaro dès le 8 janvier 2015, titre du journal « Chaque Français paierait 735 euros pour l'effacement de la dette grecque ». Oui, le calcul a été vite fait. Ce que chaque Français paierait pour financer les rafales qui sont vendues par Serge Dassault n'a jamais été calculé par le Figaro. Il y a un moment où, pourtant, le budget français a englouti des sommes colossales dans le développement de cette affaire. Il y a donc, c'était mon premier point, j'ai peut-être été un peu long, j'essaierai d'être plus rapide sur le second. Il y a donc la propriété de l'information dont on ne parle pas dans les grands médias. Et puis, il y a cette autre question qui monte maintenant, d'occuper une bonne part de l'actualité, cette question des fake news, de la post-vérité, des théories du complot. Un éditorial du Monde paru le 3 janvier dernier, il y a quelques jours, donc, insistait sur le fait que le très respectable dictionnaire d'Oxford avait choisi comme mot de l'année 2016 l'adjectif post-truth, en français post-vérité. L'expression post-vérité signifie, je cite, relatif aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur la formation de l'opinion que l'appel aux émotions et aux croyances personnelles. Cette expression, et c'est ça qui est quand même intéressant et qui devrait vous interroger, s'est imposée en 2016 à la faveur de 2 scrutins. Le référendum du 23 juin dernier sur le Brexit, qui a décidé de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, puis l'élection américaine du 8 novembre. En somme, nous disent le dictionnaire d'Oxford et Le Monde, la post-vérité serait devenue un problème tel qu'il réclame une nouvelle appellation, un nouveau mot, un nouveau concept, à partir du moment où les mensonges ont débouché sur des verdicts électoraux que ni le dictionnaire d'Oxford, ni Le Monde n'attendait, et sans doute ne souhaitait. Quand François Hollande proclame en 2012 « Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance », est-ce qu'il ment? Est-ce déjà avant Trump et avant le Brexit, alors que le monde existe pas? Est-ce que c'est une post-vérité? Quand Nicolas Sarkozy proclame, 4 mois avant son élection en 2007, que l'âge du départ en retraite ne sera pas modifié, est-ce une post-vérité? En octobre 90, la plupart des médias de la planète ont diffusé, sans vérification, la fable des soldats irakiens détruisant une couveuse avec des bébés à la modernité du Koweït. Il s'agissait cette fois de préparer l'opinion à une intervention militaire américaine, mais pas seulement américaine. Pour finir, une chose que vous connaissez bien, parce que vous l'avez tous en mémoire, la débauche d'articles dans le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, pour ne parler que la presse américaine, qui relayèrent en 2003 l'épreuve imaginaire de la présence en Irak d'armes de destruction massive. En somme, les post-vérités, ou ce qu'on appelait déjà en 1914 le bourrage de crâne, il n'a pas lieu. Voilà, je vois que j'ai pris déjà beaucoup de temps, donc je vais rester là, j'ai été long. Et puis, il n'y a pas de conclusion, il y a juste une bataille qui continue.
Voilà, c'était donc Serge Halimi qui était l'invité de l'Université populaire de la Bourse du Travail. On continue donc à Aura des rues, cette émission du 20 janvier. Avec toi, Morgane, tu vas nous parler du droit à la ville.
Eh bien oui, alors voilà, je me trouve embarquée dans l'organisation de rencontres sur le droit à la ville. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est ce droit à la ville? Certains amis néo-ruraux du coin ont réagi violemment. Mais la ville, c'est fini! On y vit mal, et puis c'est pas durable comme mode de vie. D'autres, plutôt ultra-urbains, ont rétorqué. C'est trop conceptuel, ça parle pas aux gens, et c'est pas ce qui les préoccupe. Et puis bon, c'est un truc d'universitaire. Effectivement, le droit à la ville, c'est un concept, mais c'est un concept qui se veut révolutionnaire. C'est un philosophe français, Henri Lefebvre, bien marxiste, né en 1901 et mort en 91, qui a créé ce concept et qui a publié un livre du même nom, juste avant les révoltes de mai 68 à Paris, pour le centenaire du Capital de Marx. Alors, c'était un enseignant-chercheur à l'université de Nanterre. Donc, si vous la connaissez, c'est une université qui était plutôt à gauche à cette période-là.
C'est de là qu'est né le mouvement de mai 68.
Tu m'ôtes les mots de la bouche, puisque j'allais dire que cette université située aux portes de Paris et d'où les étudiants se sont mobilisés au printemps 68. Bon, si je vous dis quartier de la Défense, vous voyez peut-être ce que c'est aujourd'hui Nanterre, pour les dominants. Alors bref, en ces temps mouvementés, cet enseignant écrit que les luttes ne sont plus des luttes ouvrières, mais des luttes urbaines. Dans le sens où, à cette époque, il y a une forte ségrégation spatiale. Donc, les pauvres et les riches n'habitent pas au même endroit. Voilà.
Ça, c'est fini.
Qui s'installe, donc, cette ségrégation dans la ville. Et puis, par la construction, notamment, des quartiers d'habitat en périphérie de manière très massive. Donc, la ville s'étend de manière massive. L'État est très volontariste en termes de construction d'habitat social, notamment. Et puis c'est pour cela que la ville, comme centre des pouvoirs politiques, symboliques et économiques, devient le lieu où s'expriment les revendications sociales, mais devient aussi une revendication en soi. C'est-à-dire qu'on veut avoir le droit à une vie urbaine de qualité, accéder à ses richesses symboliques, culturelles, économiques, mais aussi sociales. C'est en quelque sorte la revendication d'une mixité sociale pour le centre-ville. Alors, c'est un peu au centre-ville où il manque aujourd'hui le plus de mixité sociale. C'est bien dans les centres des grandes villes dynamiques et attractives. Mais si c'est arrivé, c'est peut-être parce qu'on n'a rien fait pour permettre aux petites gentes de rester là où elles habitaient. Enfin bon, nous ne sommes pas là pour refaire l'histoire de la révolution industrielle ni de l'exode rural et expliquer le déplacement des ouvriers du centre-ville vers la périphérie. Bref, le droit à la ville nous intéresse pour analyser ce qui se passe aujourd'hui et expliquer en deux phrases ce que certains ont écrit durant toute leur vie serait difficile et risqué aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans ces rencontres ? C'est de savoir qui utilise le droit à la ville comme revendication, où, pourquoi et comment ils le font. Et puis, qu'est-ce qu'ils mettent dedans ? En fait, plus ailleurs qu'en France, beaucoup de mouvements sociaux ont utilisé cette revendication contre la financiarisation des villes, les expulsions, les démolitions des logements sociaux, l'interdiction des 100 logements à vivre dans les rues des centres-villes. Et puis, il y a même une coalition européenne aujourd'hui pour le droit au logement et à la ville. Alors, on aura l'occasion de découvrir durant ces rencontres qui sont-ils et que font-ils. Mais cela pose aussi une question. Qu'est-ce qu'une vie urbaine de qualité ? D'ailleurs, pour vous, c'est quoi ? Alors, je suis allée écouter ce qu'avait à dire Paris Combo sur le sujet. Tôt, j'ai mangé de l'autocar, avec ses jantes, avec ses phares. Ensuite, j'ai fumé une berline aux pures essences raffinées de benzine. Paris, j'aime ton gasoil, l'odeur de ton excitation moteur. Paris, tu es la capitale, la lettre P en sonore initiale.
Je peux peut-être rappeler ce qu'était Paris Combo.
Alors, Paris Combo, c'est un groupe de musique. Et ils finissent... Car tu sens si bon l'été sous ta chape de plomb soufré que j'ai l'inspiration fatale. Tu seras toujours romantique, même au temps des pics qui goudronnent tes monuments et font pleurer tous les yeux des amants.
Comme c'est beau.
Restons sérieux, ce n'est pas de pollution dont on a besoin. Mais force est de constater que l'on vit tous avec, de manière égalitaire, sauf les plus inventifs qui sont allés se percher en haut des montagnes de notre cuvette grenobloise. Au moins, une chose qu'on reprochera... De moins aux riches. Enfin, les solutions proposées aujourd'hui pour un air plus propre restent d'avoir une voiture plus neuve ou pas de voiture du tout, ce qui n'avantage pas toujours les plus pauvres et qui rend certains métiers un peu compliqués à exercer, comme les intérimaires du bâtiment par exemple. Mais ne nous empêchons pas de chercher des vraies solutions comme travailler moins et mieux en gagnant correctement sa vie, avoir le temps de jardiner, de lire, de marcher, d'aller au cinéma ou au théâtre, et enfin de s'occuper de ses enfants sans s'inquiéter du loyer ou du souper. Ceux qui ont manifesté ce printemps contre la loi du travail précarisant et qui occupaient gaiement le parvis de la MC2 N'avaient-ils pas, eux, quelques solutions à proposer ? Enfin, quand on est en costume, quand on n'est pas en costume cravate et qu'on dort debout sous une tente, on fait tout de suite moins convaincant. Alors voilà, les rencontres sur le droit à la ville, ça va être l'occasion de rencontrer du monde pour discuter de ce que nous voulons comme ville pour nous et les autres. De faire des bilans sur l'histoire des luttes urbaines ici et ailleurs. De découvrir aussi comment l'autre vit ou survit dans la ville. Ça sera en mars, un peu partout dans la ville, mais on vous tiendra au courant. Et surtout, on va vous mettre à l'eau à la bouche en abordant déjà quelques sujets. Alors à bientôt pour la suite.
Eh bien, merci Morgane pour cette introduction au droit à la ville, puisque c'est une première chronique et on appelle d'autres en fait tout au long des prochaines émissions. Tu vas continuer de nous parler du droit à la ville. On a hâte de connaître la suite.
Ah oui, moi aussi, hein, franchement, là, je voulais parler. Hein.
Bah, chacun son tour.
C'est ça.
Et pour l'instant, c'est le tour du Collège Lucie Aumrac et de Radio Villeneuve. Alors, on avait déjà diffusé un extrait en fait, de cette web radio qui a été créée par les élèves du Collège Lucie Aumrac. Un extrait avec une tribune, une chronique de Philippe Meyer, un ancien journaliste de France Inter. Ils ont un peu travaillé cette chronique, retravaillé cette chronique. Ils ont fait le montage final. Et je vous propose d'écouter cette chronique hommage à Philippe Meyer. Pardon, il va parler du café Sospeso. Le café Sospeso, c'est le café qu'on paye à un café pour quelqu'un, pour une personne
pour
qui viendra après, voilà, pour le suivant.
Et qui aura oublié son porte-monnaie.
Voilà. Donc c'est une façon de voir différemment la ville justement et les rapports sociaux.
Café Sospeso, ça veut dire café suspendu.
Merci pour ta science de l'italien, Morgane. Et donc
Pardon, on fait ça aussi pour le pain chez le boulanger quelquefois.
Le pain Sospeso.
Je sais pas si c'est Sospeso, mais il y a une baguette pour quelqu'un qui n'en aurait pas.
On devrait faire ça avec les voitures aussi, les voitures Sospeso.
Ouais.
Du coup, je vous propose d'écouter ce petit extrait. Puis les enfants ont décidé d'essayer d'envoyer ce montage hommage à Philippe Meyer lui-même pour qu'il puisse écouter.
Heureux délégué du Collège Villeneuve et des autres délégués d'autres...
Heureux professeur du Collège Villeneuve et des autres départements français.
Et des autres délégués d'autres...
Heureux professeur du Collège Villeneuve et des autres départements français.
Nos vieux maîtres ne soutenaient-ils pas que le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien.
Et quelle est, ô chroniqueur matutinal, cette coutume du café Sospeso ? Elle est simple. Quiconque entre dans un bar à Naples peut demander « un café et un Sospeso », ce qui se traduit littéralement par « un café et un suspendu ».
À celui qui a passé cette commande, le tenancier du bar sert en tout et pour tout un café, mais il lui en fait payer deux.
Et le suspendu, oncle Philippe, que diable est le suspendu ? Eh bien, le suspendu, c'est le deuxième café qu'a réglé le consommateur et qu'on ne lui a pas servi. Et qu'advient-il du suspendu ? Est-ce un café payé d'avance et que le client a en quelque sorte fait mettre de côté pour sa prochaine visite ?
Pas tout à fait. C'est un café payé d'avance et qui est mis à la disposition de quiconque se trouve désargenté et désireux cependant de se réconforter d'un expresso. Pour boire ce Sospeso, ce café suspendu, il suffit de pousser la porte du bar et de demander. C'est un Sospeso ? Il y a un suspendu ?
Et si les clients ont été généreux, le fauché peut déguster son café aux frais d'un homme qu'il ne rencontrera jamais et qui, onc, ne lui demandera de porter le fardeau de la reconnaissance. Voulez-vous gager que le café suspendu réveille encore mieux que le café tout court ?
Je vous souhaite le bonjour, nous vivons une époque radiophonique.
Je vous souhaite le bonjour,
nous vivons une époque de réchauffement climatique.
Je vous souhaite le bonjour, nous vivons une radio moderne.
Voilà, c'était le petit hommage des collégiens de Lycée Aubrac, le Collège de la Villeneuve, à Philippe Meyer. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avec le titre Fat Mama d'Herbie Hancock. Alors, Herbie Hancock, au même titre que le grand Miles Davis, est un incomparable musicien, mais ces deux-là ont également une formidable capacité à se renouveler. Un exemple parmi d'autres, en 1969, le prodige du synthétiseur, donc Mike Hancock, Herbie Hancock, pardon, cherche un nouveau souffle créatif. La musique funk est en train d'envahir les ondes par l'intermédiaire de James Brown, son inventeur et meilleur représentant. Miles Davis déclare que le blues est une musique vendue aux blancs et que l'avenir des musiques noires gravite quelque part autour du funk. Il n'en faut pas plus à Herbie Hancock pour s'engager dans l'aventure, avec toujours ce synthé délicieux. Alors il faut quand même préciser que le bonhomme a sorti 39 albums studio. Voilà, ça montre un peu l'étendue de ce musicien. On écoute le titre Fat Mama de Herbie Hancock. Voilà, c'était le titre Fat Mama d'Herbie Hancock. Vous êtes toujours à l'écoute d'Aura des Rues, l'émission sur l'actualité des quartiers sud de Grenoble sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et aujourd'hui, dans notre studio, nous recevons Bernadette Richard-Fineau. Rebonjour.
Rebonjour.
Alors, le 9 janvier dernier, vous avez convoqué une conférence de presse au sein de la mairie, puisque vous êtes élu à la mairie de Grenoble, pour officialiser votre exclusion ou auto-exclusion, on va voir un peu après sur les termes, du groupe politique RCGE, donc Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Écologistes. et la création d'un nouveau groupe, donc vous-même et Guy Toucher, à deux, du coup, d'un nouveau groupe qui s'appelle Ensemble à gauche. Voilà, et cette exclusion, auto-exclusion, est venue de votre abstention sur le vote du budget 2017 de la ville de Grenoble lors du dernier conseil municipal en date, donc c'était celui du 19 décembre. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu donc, sur cette, la tournure qu'ont pris les événements? Comment vous avez décidé, en fait, vous êtes arrivé au fait de créer ce nouveau groupe politique?
En fait, ce qui nous a poussé au départ, Guy Toucher et moi-même, à cette abstention, c'est qu'on estimait que tout n'avait pas été fait dans la recherche d'autres solutions. Et on reprochait surtout d'abandonner nos valeurs de gauche que nous avons vendues en quelque sorte aux citoyens grenoblois lors de la campagne, d'une part, et d'autre part, on revenait sur un projet important qui était la co-construction. Ce budget a quand même été imposé à tous, y compris à nous au sein du conseil municipal, puisqu'on a eu beaucoup de mal à avoir les informations, et notamment il y a des informations que nous n'avons jamais pu obtenir. Donc nous avons décidé de nous abstenir en prévenant nos collègues élus une semaine avant, parce que cette décision a mûri et on en a beaucoup parlé avant de vraiment dire, ben voilà, on s'abstient. Donc une semaine avant, on a dit qu'on s'abstenait, puisqu'il est prévu que l'on peut avoir des votes différenciés. Donc on a déjà exercé ce vote différencié lors du vote du CREM.
Donc un vote différencié, c'est un vote différent de celui
de la majorité.
De la majorité.
Voilà, donc pouvoir voter autrement que la majorité. Donc une première fois, on avait voté lors du CREM un vote différencié, c'est-à-dire l'éclairage public, parce que nous, nous voulions que cela revienne à une régie municipale et que ça n'aille pas au privé. Ensuite, nous nous sommes aussi opposés au stationnement, à la délibération du stationnement. Et là, donc, nous avions décidé de nous abstenir. Donc, nous avions prévenu nos collègues et c'était un droit qui était reconnu à tous les élus de pouvoir faire un vote différencié dès l'instant où ça ne mettait pas en péril la majorité.
Oui, donc, cette majorité est composée de... Il y a 42 élus.
42 enfin, élus.
Avant, voilà. Il y avait 42 élus au sein de ce groupe municipal. Mmh. Donc, vos deux abstentions ne mettaient pas du tout en danger, normalement, le vote du budget.
Non, il ne mettait pas du tout, puisque 40 voix qui votent pour, le budget est adopté. Et donc, il y a eu des explications un peu houleuses. Et 3h30 avant le conseil municipal du 19 décembre, eh bien, il y a eu un amendement qui a été voté et qui disait que le vote du budget devait être positif si on voulait appartenir à la majorité. Et donc nous avons maintenu notre décision de nous abstenir, parce que pour nous c'était notre idée politique qui était à défendre. Donc le 19 décembre, nous nous sommes donc abstenus. Et le 21 décembre, nous avons reçu un mail des coprésidents du groupe RCGE, qui nous précisait que dorénavant, il y aurait deux listes de diffusion à l'intérieur de ce groupe, c'est-à-dire une liste sur laquelle nous serions, Guy et moi, et une liste où nous ne serions pas. Et on nous disait aussi que le 5 et 6 janvier, il y avait donc une réunion à laquelle nous n'étions pas invités, un séminaire, nous n'étions pas invités. Et ensuite, la réunion du groupe, parce que tous les lundis soirs, il y a une réunion de groupe, nous n'étions pas invités non plus. On nous demandait de ne pas venir.
Donc vous étiez vraiment mis à l'écart du rassemblement.
Donc on était mis à l'écart. Donc soit on appartient au rassemblement, soit on n'appartient pas. Mais on ne peut pas appartenir à 60% au rassemblement. Enfin, pour nous, c'était ainsi. Donc nous avons attendu la fin des vacances, nous avons pris rendez-vous avec le maire, enfin nous avons demandé au maire de nous recevoir, et le maire nous a répondu qu'il n'était pas décideur, que c'était le groupe qui décidait, donc acte. Et il nous a dit qu'en fait, bah, c'était ainsi.
Il n'a même pas cherché à vous retenir.
Non. Non, il n'a pas cherché, puisqu'il a dit que c'était une décision du groupe et que lui n'avait pas à intervenir. Il faisait partie du groupe et il n'était pas plus important que les autres. Donc, à l'issue de cette réunion, nous nous sommes rencontrés avec notre groupe de soutien, parce qu'il faut savoir que derrière nous, nous avons des personnes qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir, parce que c'est dur hein, de prendre une décision comme ça. Donc ce sont des personnes qu'on connaît depuis longtemps, ça peut être des gens qui sont encartés ou non, qui sont issus d'associations. Et donc nous avons beaucoup discuté en disant, ben, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'ils nous virent ou on crée notre groupe? Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils voulaient nous virer, mais ils n'avaient pas le courage politique de nous virer réellement, si on peut dire. Hein. Et là, ben, nous avons décidé de nous lancer. Et donc, le 9 janvier, nous avons déposé cette demande auprès du maire de la création d'un nouveau groupe, Ensemble à gauche. Donc, vous allez me demander pourquoi ce nom-là?
Eh bien, pourquoi ce nom-là?
Je vous grille votre... Donc, ensemble, parce que nous partons du principe qu'il faut accueillir toutes les personnes qui sont prêtes à nous aider, à nous donner des idées, parce qu'il ne faut pas être professionnel. Ou... Voilà, il y a des gens qui ont des compétences. Et nous, on est prêts à accueillir toutes les compétences. C'est pour ça qu'on dit ensemble. Et à gauche, parce que nous sommes marqués à gauche, autant Guy que moi.
Vous êtes vous-même êtes membre du parti de gauche?
Je suis membre du parti de gauche, mais je me pose la question de savoir, est-ce que j'ai encore une place au parti de gauche, puisqu'il faut savoir que je suis la seule élue du parti de gauche à ne pas avoir voté ce budget. Donc, est-ce que c'est moi qui ne correspond plus au parti de gauche, ou est-ce que ce sont les autres élus qui ne correspondent plus au parti de gauche? Donc, moi, je pars du principe que... mon adhésion à ce parti est à discuter.
Quand vous avez fait état de ce départ, de cette création d'un nouveau groupe, est-ce que vous avez reçu du soutien de la part d'autres élus, membres du Rassemblement?
Alors, nous avons eu des SMS, des appels, des mails de certaines personnes du groupe qui nous disaient « c'est bien, vous avez raison ». Donc, ils nous soutiennent officieusement.
Il y a une certaine peur, en fait, d'exprimer plus clairement ce soutien à votre démarche ou... Parce que vous n'étiez que deux, en fait, à vous abstenir. C'est même pas à voter contre, c'est à s'abstenir sur le vote du budget 2017.
Une peur... Vous savez, c'est toujours difficile de sortir de ce petit cocon. On était 42 élus, on s'entend très bien. Hein. Il n'y a pas eu de problème particulier. Donc, c'est pas facile de prendre la décision de partir. Nous, ça nous était moins difficile puisque nous n'étions pas ni adjoints ni délégués. Alors que nous avons des camarades qui sont soit adjoints, soit délégués, qui siègent à la métro et qui ont peur de partir parce que du fait de leur départ, ils risquent de perdre ces délégations. Et il y a des personnes qui, pendant toute leur vie, ont rêvé de pouvoir s'occuper de certains domaines et qui, aujourd'hui, ont cette chance. Et c'est pas facile. C'est un renoncement, quelque part, un renoncement politique.
Vous-même, avant cette émission, vous disiez que vous étiez 40e sur la liste du Rassemblement. Vous ne vous attendiez pas à être élu. Quand vous êtes arrivé dans cette majorité, est-ce que vous vous êtes dit... Bon, voilà, c'est le moment de changer un peu les choses, de passer sur les 18 ans de la municipalité d'Estaut. Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de regret maintenant de voir comment les choses évoluent en fait au sein de cette majorité?
Non, moi je suis une personne qui ne regrette jamais. Parce que de toute façon, les regrets, ça ne sert à rien à part pourrir la vie. Non, je suis très heureuse d'avoir fait partie de cette majorité. Mais moi, je ne suis pas dans une opposition systématique. D'ailleurs, on ne sait pas si notre groupe... est encore dans la majorité ou est dans l'opposition. Il faut qu'on pose la question pour savoir où nous situer aussi.
Il y a un communiqué de l'ADES, donc qui est un parti politique, un micro-parti politique local, qui est donc membre de la majorité au conseil municipal, qui a publié un communiqué lors de votre... lors de la création de votre groupe et qui dit « Souhaitons que ce nouveau groupe mène un débat d'une autre qualité que celui proposé par les groupes d'opposition actuels. » Donc ça veut dire qu'ils vous considèrent aussi comme un groupe d'opposition, apparemment, dès maintenant.
On ne sait pas exactement, puisque Guy Tuchère est adhérent de l'ADES. Il était contre l'apparition de cet article. Il n'a pas été écouté. Il a demandé un droit de réponse, où il va le faire incessamment sous peu. Donc on va attendre. S'il obtient ce droit de réponse, il s'expliquera.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on va revenir dans la seconde partie de cette interview sur une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas voté le budget, c'était le plan de sauvegarde et la fermeture des bibliothèques. On va écouter une chanson, une musique, la chanson s'appelle I Found Out, du chanteur Nathaniel Meyer. Alors, c'est un chanteur qui a eu du succès dans les années 60 et il a disparu pendant 40 ans. Et il a refait surface en 2002. Alors, à l'âge où certains recoulent tranquillement sur un rocking chair en fumant la pipe, lui a décidé de secouer le cocotier, comme au bon vieux temps. Une leçon à tous ceux qui nous rabâchent sans cesse que la vieillesse est une petite mort. Alors voilà, on écoute la chanson I Found Out de Nathaniel Meyer, qui est une reprise d'une chanson de John Lennon qui date de 1970. Voilà, c'était la chanson I Found Out de Nathaniel Meyer. Vous êtes toujours sur Aura des Rues, l'émission sur l'actualité des quartiers sud de Grenoble, l'émission qui prend de la hauteur. Et nous sommes en studio avec Bernadette Richard-Fineau, élue au conseil municipal, qui nous parlait de la scission qui est survenue au sein du conseil municipal, du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, et de la création du nouveau groupe politique Ensemble à gauche. Et vous nous expliquiez que cette scission est survenue suite à votre abstention lors du vote sur le budget 2017. Vous êtes abstenu parce que ce budget présentait le plan de sauvegarde en fait des services publics qui a été lancé en juin 2016. Et notamment, dans ce plan de sauvegarde, il y a la fermeture des bibliothèques et notamment de la bibliothèque Prémol. Marie-France, tu voulais nous parler d'un rassemblement qui a eu jeudi?
Oui, mercredi matin à 9h du matin, il y a eu un rassemblement devant la bibliothèque Prémol qui avait été appelé par l'Union de quartier et par le collectif Touchez pas nos bibliothèques. Hein, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici, à ce même micro. Et donc, un rassemblement parce qu'on avait eu vent que ce jour-là, à cette heure-là, des bibliothécaires de l'Arlequin viendraient déménager ce qui reste de livres dans la bibliothèque. Voilà. Donc, c'était un peu une action pour dire on n'est pas d'accord, dans la mesure où la pétition citoyenne qui a été mise en route et avec l'aval de la mairie, on la trouve sur le site de la mairie, n'avait pas encore été au bout du processus, c'est-à-dire la récupération de minimum de 2000 signatures. Hein, voilà. Et donc, c'était une protestation. On ne savait pas s'il y aurait du monde, mais finalement, on était une petite quarantaine de personnes, je crois, pour dire qu'on n'était pas d'accord. Il y a eu une toute petite négociation, je crois, avec un cadre des bibliothèques, hein, je crois, et qu'ils ont finalement décidé de ne pas enlever les livres. C'est sûrement en partie remise, hein, mais... Et du coup, donc, il y a eu présence d'un certain nombre de journalistes qui étaient là, qui ont pu...
Et vous étiez là aussi, Bernadette Richard-Fineau,
parler de l'événement.
Voilà, puisque vous opposez à la fermeture de ces bibliothèques.
Eh bien, je trouve que c'est une mauvaise idée de supprimer des bibliothèques dans les quartiers sud qui en ont bien besoin. Donc, l'Alliance, c'est autre chose, puisque c'est surtout qu'il n'y aura plus rien dans ce quartier. Mais c'est vrai que moi, j'avais voté le plan de sauvegarde en juin et j'en suis très marrée aujourd'hui parce que je ne pensais pas qu'il y aurait tout ça derrière. Je n'avais pas quantifié l'incidence de ce plan de sauvegarde. Bon, il faut dire que moi, c'est mon premier mandat. J'ai été élue à 60 ans pour la première fois de ma vie. Donc, je ne suis pas une politicienne. J'ai toujours milité, mais je ne suis pas une politicienne et je n'avais pas vu tout ce qu'il y avait derrière ce plan de sauvegarde. Et je regrette aujourd'hui, on aurait dû, justement avec Guy, et Guy le regrette aussi, il me semble, on aurait dû réagir plus vite. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc c'est vrai que c'est dommage. Et j'ai signé hier d'ailleurs la pétition, parce que jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas signée parce que j'étais dans la majorité. Et comme je prends du recul aujourd'hui, je me dis après tout, je la signe. Mon mari l'a signée il y a longtemps d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça. Je trouve que c'est dommage. Je suis moi-même adhérente aux bibliothèques de Grenoble. Et c'est vrai que lorsque j'ai renouvelé mon abonnement, récemment, là, la bibliothèque qui a vu mon nom m'a dit « Ah, c'est vous Je vous remercie !» Et ça fait chaud au cœur.
Vous avez déclaré, lors justement du débat sur le vote du budget, les bibliothèques font partie des acquis les plus précieux de la ville de Grenoble. Là, sont les héritières donc, du docteur Ganon, qui est l'initiateur de ce réseau de bibliothèques. Pourquoi vous pensez que c'est un acquis des plus précieux?
Parce que apprendre la lecture aux enfants, c'est important, parce que ça ouvre l'esprit. Et puis dans ces bibliothèques, il n'y a pas que l'emprunt des livres, il y a l'attention des bibliothécaires qui font de la lecture publique. Et ça, c'est vachement important, parce que intéresser les gens à la lecture, c'est très important. Ça leur permet d'ouvrir leur esprit, d'apprendre plein de choses, de connaître ce qu'on ne connaît pas.
Et le maire et le rassemblement disent qu'il n'y a pas d'alternative en fait à cette décision-là. Ils n'ont pas le choix que de fermer ces bibliothèques. Que leur répondez-vous arguments.
En septembre, après les vacances, j'ai dit dans une réunion, pourquoi ne pas faire un moratoire, geler les décisions et rencontrer la population pour discuter avec les Grenoblois et voir s'il n'y a pas d'autres alternatives. Mais là, j'ai fait un flop, ça n'intéressait pas, puisque la décision était prise et c'était comme ça, c'était ferme et définitif. Et bon, c'est dommage parce que justement, on a été élus grâce à un mouvement de la population. On a été porté par les associations, par les gens normaux, comme on dit, excusez-moi ce mot. Et aujourd'hui, je pense qu'on déçoit un peu toutes ces personnes. Et beaucoup de personnes qui ont porté notre liste aujourd'hui se détournent de nous, voire nous critiquent avec amertume. Et ça, c'est grave.
Et ça va être, je pense, la dernière question de cette émission. Comment vous voyez maintenant votre travail d'élu, maintenant que vous ne faites plus partie de cette majorité ?
Bien, mon travail d'élu, ça va être de regarder de près toutes les délibérations avec Guy et puis avec notre groupe d'appui. Bien sûr, si ce qui est dans les délibérations nous convient, on votera. On ne sera pas systématiquement en opposition. Loin de là, nous, on fait partie de cette majorité, même si on est à côté aujourd'hui. Mais par contre, pour ça, s'il y a des délibérations qui ne nous plaisent pas, enfin, qui ne correspondent pas à notre éthique, on ne les votera pas.
Eh bien, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation dans cette émission. Marie-France, tu voulais conclure sur un rassemblement pour la sauvegarde des bibliothèques ?
Oui, une dernière information. On avait évoqué ici le collectif Touchez pas à nos bibliothèques qui rassemble une intersyndicale, qui rassemble des parents d'élèves, des bibliothécaires de ces bibliothèques qui ferment ou d'autres, et des unions de quartier, des différents quartiers, depuis l'île verte jusqu'à les Alpins, la Capuche et puis le village olympique. Donc la prochaine réunion de ce collectif aura lieu à 10, qui reste ouvert à toute la population de nos quartiers, à 18h15 à la Maison des Jeunes Lucie Aubrac. C'est à la Capuche et l'entrée de cette salle est dans la rue Élisée-Chatin. MJC Lucie Aubrac. Donc voilà, demain à 18h15.
Eh bien, merci Marie-France pour ce rendez-vous. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Aura des rues revient le 3 février, puisqu'on n'est plus une émission hebdomadaire, mais toutes les deux semaines. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter par notre Facebook Aura des rues-RKS97FM ou par mail Aura des rues tout attaché @lecrieur.net et que le podcast et que cette émission d'ailleurs sera rediffusée mercredi de 11h à midi et vendredi prochain de 19h à 20h et que vous pourrez très prochainement retrouver le podcast sur le site du Crieur. Et puis nous on se retrouve donc le 3 février.
À la prochaine. Au revoir.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine. Yeah.